Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour et bienvenue sur l'Aléa. Je m'appelle Laura Pouliken et dans la vie, je chéris les valeurs de l'audace, de la curiosité et du partage. La recherche de sens et d'alignement guide toutes les actions que j'entreprends. À travers ce podcast, je vous partage mes rencontres inspirantes pour que l'on prenne ensemble le chemin de l'épanouissement personnel et professionnel. Vous trouverez les idées, les parcours, les témoignages ou les conseils de personnes connues ou inconnues, de professionnels ou d'autodidactes, sur des sujets autour du business, du développement personnel, de l'art, de l'entrepreneuriat, du bien-être, du voyage, de la famille ou encore de la spiritualité. Ma seule mission, vous accompagner de la manière la plus accessible possible dans la réalisation de vous-même et dans la poursuite de vos rêves. Pour ce nouvel épisode, je reçois sur le podcast Aude Aubron, cofondatrice de la marque de vêtements intemporels pour enfants Frangin Frangine. Parole d'une fidèle cliente, si vous ne connaissez pas cette marque, vous allez l'adorer. Les matières sont naturelles et durables, les looks ont une petite touche rétro, les modèles sont aussi bien pour les filles que pour les garçons. Après 8 ans dans l'univers du textile chez Etam, Aude cherche à se reconvertir. Son amie Mylène lui propose de reprendre avec elle Frangin Frangine qui ne se portait pas très bien. L'aventure était lancée. Depuis, elle gère d'une main de maître cette petite entreprise tout en faisant de la place à leur grande famille. Comment se passe la reprise d'une marque? Comment s'organise-t-elle au quotidien? Quels ont été leurs plus grands défis? Où puissent-elles leur inspiration? Comment trouver son équilibre vie pro, vie perso? Des questions auxquelles Aude répond sincèrement. Je remercie chaleureusement Frangin Frangine qui soutient cet épisode aujourd'hui et qui vous offre 10% de réduction sur tout le site avec le code LALEA10. Si vous aimez le podcast et avez envie de le soutenir, je ne vous demanderai qu'une chose. Partagez votre épisode préféré en story Instagram et ou laissez un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcasts ou iTunes. Place à mon échange avec Aude Aubron. Bonjour Aude.
Bonjour Laura.
Je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui pour parler donc de toi, de ton parcours et de ta marque Frangin Frangine. Personnellement, je suis fan de cette marque, je tiens à te le dire. D'ailleurs, c'est drôle parce que là, j'enregistre dans la chambre de ma fille et devant moi, il y a des vêtements Frangin Frangine.
Donc, parfait.
On est sur le thème. Tout d'abord, une question très simple. Comment tu vas ?
Eh ben déjà bonjour Laura, merci beaucoup de m'inviter aujourd'hui. Comment je vais ? Ben écoute, je vais très bien. Très bon début de journée, donc on va dire que je suis de très bonne humeur et tout va bien.
Super. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas ?
Ouais, bien sûr. Alors je m'appelle Aude, j'ai 35 ans, plus pour très longtemps, bientôt 36, et j'ai 4 enfants. Je viens de Lille, j'ai grandi à Lille, j'ai fait mes études là-bas et je suis arrivée à Paris à une quinzaine d'années pour commencer à travailler et voilà.
D'accord, super. Si on fait un petit retour en arrière, quel genre d'enfant tu étais ?
Alors, si j'écoute ma maman, elle me dirait que j'étais une enfant hyper sociable, hyper souriante, hyper gaie. Bon, ça fait beaucoup de qualités. Je pense que j'étais aussi certainement un peu pénible et à certains moments. Mais dans mes souvenirs, j'aimais beaucoup passer de temps avec mes frères et sœurs, avec mes cousines. J'ai le souvenir de grandes réunions de famille où on faisait des cabanes, gamines tout ensemble et on s'éclatait. Donc oui, je pense que j'étais une petite fille bien dans mes pompes, heureuse de vivre, heureuse d'aller à l'école, heureuse de profiter de mes copines et de ma famille.
Ouais, tu fais partie d'une grande famille, tu as beaucoup de frères et sœurs?
Alors, pas une grande, non, on est trois, j'ai un grand frère et une petite sœur. En revanche, on a pas mal de cousins et cousines, et c'est vrai qu'on habitait tous à peu près dans le même coin, près de Lille, donc on passait beaucoup de temps ensemble. Donc c'est vrai qu'on était toujours entourés, que ce soit avec avec les cousins, cousines, ou même avec les amis, c'était très rare qu'on soit vraiment que les frères et sœurs, et on était pas mal en tribu, en fait, pendant mon enfance, et c'était super chouette.
C'est drôle parce que on va en parler, mais c'est ce qu'on retrouve en fait dans l'esprit.
Ouais, c'est vrai que c'est marrant.
Toi, c'était un rêve d'entreprendre quand tu étais plus jeune, bon, peut-être pas enfant, mais plus jeune en grandissant.
Non, alors vraiment pas du tout. C'était jamais mon rêve de me dire un jour je vais créer ma boîte. Pour être tout à fait honnête, moi quand j'étais au collège, je rêvais d'être juge pour enfants. Alors je sais pas pourquoi, mais c'était vraiment un rêve. Et petit à petit, ça a changé. Après, j'ai voulu être pédiatre. Enfin bref, du coup, c'était vraiment pas le rêve ultime de se dire « je vais créer ma boîte un jour ». C'est plutôt arrivé un peu par hasard, un concours de circonstances. Je pense qu'on en parlera un peu plus tard, mais c'est vrai que c'était pas un rêve.
Ouais. Et tes parents étaient entrepreneurs ou pas du tout ?
Alors, maman était institutrice puis directrice d'école, donc pas du tout entrepreneuse. Et papa, il a créé la moitié de sa carrière à peu près un cabinet de recrutement. Donc lui, oui, était entrepreneur.
D'accord. Justement, pour parler des choix professionnels que tu as faits, puisque avant Frangin Frangine, tu as eu une première vie. Je crois que tu as travaillé 8 ans dans le textile. Quel parcours tu as fait et ensuite, comment tu as orienté tes choix professionnels ?
Alors, j'ai fait un parcours. J'ai eu un bac général dans le Nord. Après, j'ai rejoint l'IESSEC, qui est une école de commerce post-bac généraliste en 5 ans. Donc pendant 2 ans, c'est généraliste. En troisième année, je me suis spécialisée en marketing. Et en fait, j'étais plutôt partie pour bosser dans la grande distribution. J'ai fait mon stage de fin d'études chez Kraft Food. Je m'occupais de tout ce qui était chocolat Côte d'Or, Milka, etc. Donc rien à voir avec le textile. Et j'étais partie pour être chef de secteur, puis chef de rayon dans la grande conso. Et en fait, au moment de chercher du travail, j'ai eu une opportunité un peu par hasard dans le groupe Etam, au prêt-à-porter, pour en fait devenir gestionnaire produit. Donc c'était l'analyse des ventes, gestion des achats des collections, main dans la main avec les chefs de produits. Et en fait, j'ai vachement accroché. Et en fait, le secteur du textile m'a vraiment tapé dans l'œil. J'ai vraiment passé mes 2 premières années en tant que gestionnaire produit. J'étais fan. Enfin, cet univers-là me correspondait à fond. À la base, j'étais quelqu'un qui aimait déjà bien la mode. Et du coup, de me retrouver dans cet univers, finalement, un peu par hasard, j'étais vraiment super contente. Et puis, de fil en aiguille, en fait, je me suis plus orientée vers chef de produit acheteuse. Du coup, toujours chez Etam, mais plus axé produit. Du coup, création de collection, main dans la main avec les stylistes, gestion des collègues entre les produits intemporels, les produits plus fashion, etc. Et en fait, j'ai fait ça pendant 8 ans, où j'ai un peu navigué entre différentes familles de produits, le denim, puis les manteaux, puis les robes et chemisiers. Donc c'était vraiment hyper intéressant. C'est vraiment une très très belle école, Etam, aussi bien au niveau de la formation que j'ai rencontré plein d'amis avec qui on est toujours en contact. Vraiment super super expérience.
Ouais, c'est super parce qu'on peut avoir l'image de groupe justement comme Etam où parfois on ne sait pas trop ce qui s'y passe et en fait bah tu nous confirmes que c'était une belle boîte avec une super ambiance.
Super ambiance.
Toi, du coup. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu décides de quitter Etam et de rejoindre l'aventure Frangin-Frangine ?
Et ben en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu des enfants. J'ai eu mon premier enfant chez Etam, mon deuxième enfant chez Etam et mon troisième enfant chez Etam. Et en fait, plus les années passaient, plus forcément avec mon métier, je voyageais, que ce soit en Asie, en Turquie, etc. Je voyageais pas mal pour les voyages de négociation. Et c'est vrai que ça devenait un peu prenant de voyager, de laisser les enfants. Et mon mari travaille beaucoup aussi, donc c'est vrai que c'est l'organisation commençait un peu à m'effrayer. Le fait de gérer en parallèle la vie de famille qui était de plus en plus riche parce qu'on avait de plus en plus d'enfants entre guillemets, les déplacements professionnels, etc. En fait, je me suis dit va falloir quand même trouver autre chose. Et puis aussi, le fait que ça faisait 10 ans que j'étais chez Etam, j'avais passé vraiment des magnifiques années, mais j'avais envie aussi de voir un peu autre chose. Donc, je m'étais dit dans ma tête, pour mon troisième congé mat, je reviendrai pas chez Etam et je trouverai un autre job. Donc, c'était un peu ça l'idée que j'avais en tête. Et en fait, Mylène, du coup, mon associée, était aussi à peu près au même niveau de réflexion. Elle avait travaillé chez De Sange, puis chez Poiré. Et elle était un peu aussi dans une période où elle était en train de vouloir changer de voie. Elle se retrouvait plus non plus dans son boulot. Et en fait, c'est elle qui, dans un premier temps, s'était rapprochée de l'équipe Frangin Frangine pour un peu, pourquoi pas travailler avec elle au début, voilà. Et en fait, de fil en aiguille, elle s'est rendue compte que potentiellement, l'ancienne équipe était peut-être intéressée à l'idée de vendre Frangin Frangine. Donc, je me rappelle très bien, elle était venue me voir à la maternité. Je venais d'accoucher d'Oscar et elle m'a dit « Écoute, Aude, je crois que c'est un peu incroyable ce qui est en train de se passer. Mais est-ce que ça te dit de reprendre Frangin Frangine avec moi ?» Alors du coup, moi, je me marre, je dis « Bah, en fait, c'est un peu un rêve éveillé parce que toutes les deux, on cherchait à faire autre chose, pas forcément ensemble. Enfin, on n'en avait jamais parlé de l'idée de reprendre ou de créer une marque ensemble. » Et en fait, c'est vrai qu'on s'est dit, bah, allons-y, banco. Enfin, on adore cette marque toutes les deux. On est clientes pour nos enfants. Toutes les deux, on a la recherche d'un nouveau challenge professionnel. Bon, bah, en fait, allons-y, ouais. Fonçons.
Ça, c'est super bien goupillé, quoi.
Ouais,
c'est
carrément.
et c'est fou aussi, mais ça, il y a des très bons podcasts sur le sujet. À quel point la maternité, enfin, ça te change tes perspectives professionnelles. Il y a souvent énormément de choses qui se passent à ce moment-là, à l'arrivée du premier enfant, ouais. Ou à l'arrivée des enfants d'après. Moi, j'ai été totalement dans le même cas pour mon ouais. Premier enfant. Est-ce que, juste pour situer, Mylène, c'était une amie du coup de longue date?
Ouais, Mylène, on se connaît depuis la cinquième, donc depuis le collège. Et c'est vraiment une amie très proche, c'est la marraine d'une de mes enfants. On a fait la même école de commerce. Donc c'est vrai que sur le papier, ça peut faire un peu peur de se dire, en fait, on est meilleure amie dans la vraie vie. Est-ce que ça va pas faire too much de devenir en plus associée?
Ouais, c'est les questions qui se posent.
Ouais, en fait, je pense qu'on s'est même pas posé la question. Aussi bizarre que ça puisse paraître, on sentait, je pense que, entre guillemets, on n'est pas des filles à problème. On est suffisamment intelligentes pour se parler si jamais ça va pas. On n'aime pas non plus le conflit, donc je pense qu'on fera toujours en sorte de discuter pour pas arriver au conflit. Et c'est vrai que du coup, ça n'a pas vraiment été un sujet. Ça paraissait assez évident. Et c'est finalement toutes les personnes qui nous posaient les questions en nous disant « ça vous fait pas peur ?» qui nous faisaient réagir en effet en se disant « bah oui, c'est peut-être... ça peut paraître bizarre, mais non, en fait, ça nous fait pas peur. »
Et vous étiez fixé des règles au cas où, justement, ça dégénérait, vous arrêtiez ou il y en avait...
Ouais, bien sûr. On s'est fait accompagner. On a un pacte d'associés qui est écrit. Donc, justement, on a tout baqué en se disant « aujourd'hui, tout va bien, mais si jamais ça se passe un peu moins bien, qu'il y en a une qui veut quitter l'aventure ou quoi, ou qu'est-ce, tout est bordé, tout est baqué. » Donc, c'est vrai que c'est un côté rassurant. Et il faut le faire. Je pense qu'il faut... Il faut prévoir les conflits quand tout va bien, parce que c'est plus facile de les traiter.
Exactement. Moi, je connais la marque très bien, comme je pense beaucoup de Parisiennes. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'était Frangin Frangine, donc au moment déjà où vous avez repris la marque, et aujourd'hui?
Alors, Frangin Frangine, au moment où on a repris la marque, bah, c'est toujours, je pense que l'ADN, enfin j'espère, et c'est ce qu'on essaie de faire, que l'ADN n'a absolument pas changé. Frangin Frangine, c'est vraiment la marque des familles, une marque intemporelle avec des modèles, comme je disais, intemporels, avec une petite touche de rétro, mais toujours dans l'air du temps. C'est la marque des familles, des fratries, des bandes de gamins qui sautent dans les flaques d'eau. Enfin, c'est vraiment une marque, on espère, spontanée et vivante, en fait. Donc ça, c'était la marque, nous, telle qu'elle nous paraissait au moment où on a repris Frangin Frangine. Vraiment. Un ADN D'accord. très fort. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un très fort attachement pour cette marque, tout comme nous, on l'était. En fait, on a rencontré, on a fait plusieurs petits déj avec des clientes pour justement essayer de bien comprendre la marque, les clients, etc. Et c'est vrai que c'est assez émouvant de se rendre compte qu'il y a... Beaucoup de nanas qui sont hyper attachées à cette marque et aux valeurs qu'elle diffuse.
Ouais, ouais. Et comment se portait la marque, en fait, au moment où vous l'avez reprise ?
Bah, la marque se portait pas super, super bien, parce que elle n'était pas rentable. Donc, ouais. C'était aussi une des raisons pour lesquelles l'équipe s'était un peu essoufflée. Essoufflée, parce que c'est vrai que c'est fatigant de mettre toute son énergie, tout son temps, et que finalement, on n'est pas le retour attendu. Donc, voilà, c'était une marque, oui, qui n'était pas en très bonne santé financière, on va dire.
Et la passation, quand elle s'est faite, donc entre les deux fondatrices et Mylène et toi, vous aviez carte blanche.
Oui, le but, c'était un peu de se dire, en fait, nous, on a racheté le fonds de commerce, donc la marque, le style, et pas du tout ce qui était stock, etc. Et oui, bah, je pense que c'est un peu le... Oui, sans se le dire, on avait carte blanche, entre guillemets. Après, évidemment, je pense qu'il y a une espèce de confiance mutuelle de se dire qu'on ne va pas en faire n'importe quoi et qu'on va garder l'esprit et l'ADN de la marque, parce que le but, ce n'est pas de reprendre une marque si c'est pour changer complètement son ADN. Sinon, ça n'a aucun intérêt.
Ouais.
Donc, en effet, je pense qu'il y avait une espèce de confiance mutuelle sur le devenir de la marque. Et je pense que c'est plutôt chouette de se dire que des personnes, des mamans en l'occurrence, sont intéressées à reprendre une marque de oui. famille, entre guillemets. Donc oui, je pense que ça s'est fait intelligemment et j'espère qu'elles sont fières aujourd'hui de ce qui est fait.
Ouais. Et bah justement, la reprise d'une marque, moi, j'ai jamais interviewé encore quelqu'un qui avait repris une marque, donc c'est intéressant. Comment ça se passe, en fait, concrètement, pour qu'on s'imagine quelles ont été les premières étapes, donc avec Mylène, de reprise de la marque ?
Alors, bah, comme je te disais précédemment, déjà, en effet, Mylène et moi, on était des grandes fans de la marque. Donc, même si, en effet, on ne l'avait pas créée, je pense qu'on avait assez bien intégré l'ADN, les valeurs de la marque qui étaient chères aux créatrices à l'époque. Après, comme tu dis, en effet, il faut se l'approprier parce que c'est une reprise et pas une création de marque. Donc, ce qui a été très important pour nous, c'est dans un premier temps de rencontrer des clientes, de beaucoup parler avec elles, de leur demander ce qu'elles aimaient chez Frangin Fourgine, ce qu'elles y attendent, ce à quoi elles s'attendaient, qu'est-ce qu'elles aimaient y retrouver, que ce soit en matière de forme, de matière, de style, d'univers, etc. Donc, on a passé pas mal de temps à justement s'imprégner de la marque, etc. Et après, nous, ce qu'on a fait, ce qui nous paraissait important justement pour s'approprier Frangin Frangine, c'était de faire un petit lifting. Donc, un lifting en termes de sur le site internet. On a refait le site un peu modernisé parce qu'aussi, il était devenu un peu obsolète comme peuvent être les sites internet au bout de quelques années. Donc, on a refondu le site. On a fait une refonte du logo aussi qu'on a un peu modernisé. On a travaillé avec de nouveaux partenaires pour tout ce qui est production. Donc, c'est-à-dire qu'on a trouvé un nouvel agent avec lequel on travaille, Dimitri, qui est notre agent bulgare et qui est vraiment un vrai partenaire avec nous et qui a cru en notre histoire. Donc, c'est hyper important et c'est une super histoire parce qu'aujourd'hui, il voit que les volumes augmentent et il se dit « Ah, bah, c'est chouette, j'ai cru en vous ». Donc, on a changé de partenaire de prod. Et après, globalement, le style, bon, bah, le style évolue parce que la mode évolue un petit peu. On est moins sur des formes classiques et des matières un peu rigides, entre guillemets, des popelines, etc. On va vers un peu plus de cool. Mais l'ADN reste exactement le même. Le style reste le même que Frangin Frangine l'était, avec évidemment des nouvelles matières qui sont plus dans l'air du temps et des imprimés qui sont plus dans l'air du temps. Et un autre truc sur lequel on a beaucoup hésité, c'est que l'équipe avant, du coup, les produits étaient vendus uniquement sur le site internet et avaient en parallèle des ventes à domicile. Donc, ce type des ventes Tupperware, on envoie un kit de démonstration à une hôtesse qui invite ses amis, qui fait une commande groupée, etc., et reçoit la commande. Et en fait, on s'est beaucoup interrogé sur le fait de garder ou pas ces ventes à domicile, parce qu'on trouvait que ça avait un petit côté un peu, pas archaïque, mais un peu hors du temps, tu vois.
Old school.
Exactement. Et en fait, on a pris la décision de les garder et au contraire de un peu booster ces ventes à domicile en les professionnalisant un petit peu. C'est-à-dire qu'on a créé une copie du site internet pour les ventes à domicile. On a fait quelque chose de beaucoup plus professionnalisant. Il y a Marine et Estelle, deux personnes qui s'occupent à 100% de ces ventes à domicile. Marine pour recruter des hôtesses et Estelle pour vraiment la logistique et la gestion des ventes au jour le jour. Et en fait, c'est super parce qu'on se dit, c'était aussi dans l'ADN de la marque, ces ventes à domicile. Et on a gardé le truc et finalement, on l'a poussé un peu plus. Et on est hyper contents d'avoir fait ce choix.
D'accord. Vous avez bénéficié d'aide au départ pour vous relancer la marque ?
Bénéficier d'aide au point de vue financier ou...
Voilà, c'est ça, d'aide financière.
Ouais, ouais, on a... C'est surtout Mylène et moi qui avons participé à la reprise de Frangin Frangine. Et on a un incubateur aussi qui nous a aidé un petit peu, en effet, pour la reprise de cette aventure. Et après, en effet, on a, outre l'aspect financier, on a été beaucoup aidé en accompagnement sur toute la paperasse, la partie juridique de ce que peut engendrer une reprise d'entreprise. Donc, c'est vrai qu'on a été, bien accompagné.
Ok. Mais justement, c'est pas forcément évident. Enfin, je sais pas combien vous êtes aujourd'hui chez Frangin Frangine.
Alors aujourd'hui, on est 6 au bureau et après on a Marine et Estelle, donc 8 qui bossent elles de chez elles. Donc on a une équipe de 8 personnes.
Donc 8 personnes. Donc aujourd'hui, bah t'es devenue malgré toi en fait chef d'entreprise. Et c'est vrai qu'au départ, quand on reprend une marque, on pense pas forcément à un agrandissement immédiat et au rôle que nous on va endosser derrière. Toi, est-ce que déjà, comment tu as vécu le fait de devenir chef d'entreprise et de devoir recruter, gérer du personnel quand on ne l'a jamais fait, en fait, auparavant? Est-ce que tu t'es formée? Quels ont été les principaux défis pour toi par rapport à cette casquette-là?
Alors, c'est vrai qu'en effet, par la force des choses, on sait qu'on sera chef d'entreprise même sans équipe parce qu'on reprend, une boîte. Après, non, en effet, on n'a pas forcément en tête à l'instant T qu'on va devoir gérer une équipe, qu'on va devoir manager, en l'occurrence, les filles, parce qu'on a une équipe 100% féminine.
Ouais.
Et c'est vrai que c'est un challenge parce qu'il faut fédérer les équipes. Déjà, quand on a une petite structure, il faut être suffisamment attractif et avoir un projet clair et enthousiasmant pour les filles pour postuler chez nous parce que... c'est vrai que c'est un chouette projet, mais on reste une toute petite start-up, donc il faut motiver les équipes, motiver les troupes et réussir à attirer les potentiels chez nous. Et après, c'est clair qu'on a fait, quelques formations avec Mylène, enfin plus des séminaires en effet management. Après, nous, on reste vraiment une toute petite équipe. Et c'est vrai qu'on est vraiment en mode de start-up, donc ça dépote et on n'a pas forcément des longs process, etc. Donc c'est à nous d'essayer de structurer davantage notre management, de créer des points réguliers de suivi, d'échange avec les équipes. Mais c'est vrai que c'est pas forcément inné, donc on apprend au jour le jour.
D'ailleurs, la répartition des rôles entre Mylène et toi, ça s'articule comment ?
Alors, moi, je m'occupe de toute la partie produit. Donc, entre guillemets, la création, on l'a fait à deux. Mais à partir du moment où on a décidé d'un produit jusqu'à sa livraison à l'entrepôt, c'est moi qui m'en occupe. Et Mylène, c'est l'autre partie. Donc, vraiment la partie commercialisation du produit, mise en valeur, marketing, toute l'autre moitié du boulot.
D'accord. Si on parle un petit peu des vêtements en tant que tels, déjà, j'imagine que la mode enfantine n'est pas forcément la même que pour les femmes. Quelles sont les différences que tu notes dans la production ? Ça, c'est ma première question. Et ensuite, comment vous concevez les collections ? C'est-à-dire, comment vous choisissez déjà d'où vient l'inspiration ? Et ensuite, comment vous choisissez tout ce qui va être modèle, matière, forme pour les vêtements ? Donc là, il y a trois questions en une. Donc, je vais reprendre sur la première.
Je vais essayer de tout retenir.
Quelle est déjà, on va reprendre par étapes, les différences, moi j'y connais rien, entre la mode enfantine et la mode pour femmes.
Alors la différence en tant que telle, techniquement parlant finalement, il y en a assez peu parce que c'est à peu près les mêmes process. Alors nous on travaille à façon, c'est-à-dire que c'est nous qui fournissons à nos ateliers de confection tout ce qui est mercerie et tissu. Et c'est pas, et eux ils s'occupent uniquement de la confection du produit. Donc en soi, ça n'a aucune différence avec la mode femme parce que les étapes sont exactement les mêmes. Là où c'est différent, c'est évidemment qu'il y a un peu plus de contrôle sur la qualité, la tenue des boutons, les pressions, etc. Tout est hyper hyper contrôlé parce que évidemment on peut pas avoir des vêtements dont la qualité est médiocre parce que risque d'étouffement. Enfin, je te passe les détails qui peuvent se passer sur des vêtements qui sont mal confectionnés. Et après, non, globalement, c'est ça qui est assez drôle. Et finalement, un peu difficile pour nous, c'est que globalement, au niveau du prix du produit, en fait, c'est quasiment le même entre un produit femme et un produit enfant. Mis à part la consommation de tissu qui est un peu moindre, mais finalement, les étapes de confection coûtent le même prix que ce soit pour la femme ou pour l'enfant. Donc, c'est là où c'est un secteur très, très, très compliqué au niveau du prix et très compétitif aussi. Parce que on peut pas vendre des produits enfants au même prix que des produits femmes et pourtant ça nous coûte quasiment la même chose à produire. Donc ça c'est le vrai challenge de ce business.
Ah oui, on n'imagine pas forcément. C'est clair. Et il y a pas plus de taille aussi pour les enfants.
Et il y a plus de taille effectivement. Après nous, on a quelques produits qui sont plus typés bébé, auquel cas on fait du 3 mois au 4 ans. Après on a des produits assez transverses qui finalement peuvent se faire du 3 mois au 12 ans. Donc c'est vrai que ça peut être très très compliqué en mise au point d'avoir d'avoir la mise au point du 3 mois, du 6 9 mois, du 12 18, enfin je te passe toutes les tailles jusqu'aux 12 ans. Donc en effet oui, tu as une plus grande ampleur de taille. Après de plus en plus de marques femmes, je pense, travaillent également les tailles extrêmes, donc ont de plus en plus de tailles également.
C'est vrai. Comment vous imaginez une nouvelle collection pour Frangin, Frangine ? Donc, comme je disais, d'où vient d'abord l'inspiration et ensuite comment vous choisissez les modèles, les matières et les formes ?
Alors, nous, on n'est pas du tout en mode bon élève, entre guillemets, parce que typiquement, chez une marque normale, on devrait avoir des bords d'inspiration, des thèmes, desquels en découlent des matières, des couleurs, puis des formes, etc. Nous, on fait vraiment pas ça dans l'ordre, on fait plutôt vraiment au feeling. En fait, on fait des salons de tissus, donc type première vision, où on va rencontrer plein de fournisseurs, nos fournisseurs adorés, des nouveaux qu'on rencontre, etc. Et en fait, chez nous, tout part de la matière ou de l'imprimé. Et en fait, on va vraiment avoir ce truc coup de cœur matière qui fait que tout va se construire autour des matières et des imprimés. Et on va directement avoir en tête, ah, avec cette matière, je vois trop bien cette petite barboteuse ou ce bloomer ou cette chemise mec. Et en fait, on ne travaille pas forcément dans le bon sens, mais ça nous va bien. Et jusqu'à présent, on y arrive bien. Mais c'est vrai que tout part de la matière et de l'imprimé.
OK. Et combien de temps il se passe en général entre le moment où vous avez sélectionné votre matière et puis la mise en ligne du vêtement ?
Alors nous, on est assez rapide parce qu'en fait, la force entre guillemets qu'on a, c'est que vu qu'on est vendu uniquement sur notre site internet et qu'on n'a pas de boutique ou de revendeur, en fait, on peut se permettre de dégainer entre guillemets au dernier moment. Donc, entre le moment où on va typer, donc sélectionner une matière, et le moment où le produit sera en ligne, globalement, nos collections, c'est en 6 mois. Donc, c'est assez rapide si on compare à d'autres
c'est
marques.
Assez rapide, ouais.
Et après, ça nous arrive pas plus tard qu'hier. On s'est dit, oh, on a trop envie de tel produit avec telle matière. Et en vrai, on est capable, si la matière est disponible assez rapidement, de l'avoir en ligne dans 3 semaines.
Ah ouais.
C'est pas comme ça sur toute la collection, loin de là. Mais on est capable, on a une certaine réactivité sur quelques produits, quelques capsules. Où on se dit, ah ça j'adore, vas-y, on le lance tout de suite, on est capable de l'avoir assez rapidement, enfin même très très rapidement.
D'accord. Et les shootings, c'est des enfants modèles ou c'est des ou
c'est des enfants de la vraie vie. Souvent on fait appel, enfin c'est pas souvent, on fait tout le temps d'ailleurs appel à la communauté Instagram tout simplement en disant,
d'accord.
On fait un shooting telle date à tel endroit, envoyez-nous les photos de vos petits choux.
Aujourd'hui, dans la recherche de sens professionnel donc, que tu as eu quand tu as décidé aussi de rejoindre l'aventure Frangin Frangine, il y a aussi la conscience écologique. Ça peut être aussi un sujet quand on travaille avec les enfants, puisque forcément, c'est l'avenir, quoi. C'est le présent et l'avenir. Vous l'affichez, vous, sur votre site et dans vos valeurs. Est-ce que dès le départ, quand vous avez décidé de reprendre la marque, ça a été un sujet pour vous, justement, l'écologie ?
Alors, ça a été évidemment un sujet, mais pour être transparente, ce n'était pas la priorité à l'époque. Parce que, entre D'accord. guillemets, on avait plein de chats à fouetter et on s'est pas dit que ça va être le sujet de notre marque. Après, évidemment, ça le devient. Évidemment, on en parle là en ce moment, on en parle tous les jours, ça devient un sujet prioritaire. Après, par la force des choses, on avait une forte conscience. Parce que, en fait, comme on dit souvent, l'écologie et la mode responsable, c'est une question de bon sens finalement. Parce qu'évidemment, nous, vu notre taille, on produit en Europe, on produit des quantités raisonnées. C'est évident qu'on ne va pas aller produire en Chine ou au Bangladesh, vu notre taille. Donc, par la production proche, C'est en effet raisonné. Après, on veut des matières qui soient naturelles. On va pas avoir de l'acrylique ou quoi au caisse parce qu'on veut que ce soit des matières qui soient douces pour nos enfants, etc. Donc déjà, par la sélection de nos matières, on l'était déjà un peu. Et là, on l'est encore plus parce que notre objectif là, pour l'été prochain, c'est d'avoir 80% de matières biologiques. Là, actuellement, on en est à 50% et on va pousser le curseur un peu plus loin. Donc, c'est vrai que ça prend du temps. On n'est pas encore à 100%, mais c'est vraiment un sujet qu'on prend très à cœur. Et après, nous, on a aussi ce côté de se dire que nos produits, c'était ce qu'on pensait en étant cliente de la marque, et c'est quelque chose qui ressort beaucoup. Les produits, c'est vraiment des produits qui durent dans le temps et qui sont costauds, ouais, qu'on peut se repasser de frère en sœur, de cousin en cousine. Et du coup, finalement, le vêtement qui pollue pas, c'est le vêtement qui existe déjà. Bah, on est un peu dans cette démarche-là aussi, finalement. Donc oui, c'est sûr que ça fait partie de nos priorités de sélectionner des tissus qui sont biologiques, de faire attention de ne pas trop produire, de faire attention de produire de façon proche et pas à l'autre bout du monde. Tout ça, on y travaille et on espère être de plus en plus irréprochable, même si on n'y est pas encore, évidemment.
Et ce que j'adore aussi, et ça, c'est vraiment... Un ressenti perso, c'est que bah là, moi, je suis maman d'une petite fille, je suis enceinte d'un petit garçon, et je trouve que sur Frangin Frangine, merci beaucoup, on va trouver... Enfin, au début, j'avais un peu peur pour l'habillement d'un petit garçon. C'est un peu bête, hein, mais bon, voilà. Et je trouve que, justement, sur Frangin Frangine, il y a des pièces qui peuvent être aussi un peu mixtes, enfin, les barboteuses que vous proposez et tout ça. Est-ce que c'était voulu et conscient, ou est-ce que c'est un hasard, finalement?
Alors, c'est vrai que c'est toujours beaucoup plus difficile de trouver autant de pièces garçons que pièces filles, parce que par la force des choses, pour la petite fille, on aura beaucoup plus de variété de formes, des petits cols, etc., de tissus avec des petites fleurs. Enfin, évidemment, c'est beaucoup plus inspirant et on a beaucoup plus de champs des possibles pour les petites filles. Après, en effet, Mylène comme moi, Mylène a 3 garçons, moi j'en ai 2. Donc, par la force des choses, on a cette sensibilité qui fait qu'on se doit de trouver des pièces aussi pour les petits gars. Parce que c'est vrai que sortie du jean et du sweat, on n'a pas 36 000 choix. Donc, c'est vraiment... Après, c'est plus facile aussi sur les bébés. On a plus de variétés possibles. Mais c'est vrai que ça nous tient à cœur d'essayer de trouver des pièces bébés, garçons qui sont chouettes. Et comme tu dis, on a également des pièces qui peuvent être tout à fait mixtes.
Oui, complètement.
Sans col et qui vont aussi bien en petit garçon que petite fille. Donc, ouais. Mais c'est vrai que c'est pas facile hein, de se renouveler sur la partie petit gars. C'est vrai que c'est un challenge quotidien.
C'est clair. Bah, que vous relevez bien, je trouve.
Bah, c'est gentil.
vous sortez, si je ne me trompe pas, 2 collections par an. C'est ça ?
Ouais, on en sort 2 grandes collections par an. Et après, on a des petites capsules, 2 ou 3 capsules par saison. Donc, c'est-à-dire des petites collections qu'on injecte. Là, par exemple, on a des capsules, une capsule pyjama, on va avoir une capsule homeware, on va avoir une capsule à Noël. Donc, on essaie d'avoir des petites capsules pour injecter de la nouveauté et créer un peu un petit buzz, entre guillemets, et de la nouveauté en cours de saison.
D'accord. Si on parle un petit peu d'équilibre vie pro-vie perso, vous avez toutes les 2 4 enfants. Quel rôle joue ton entourage dans cette aventure professionnelle ? Comment a réagi ton compagnon, si tu en as actuellement, à cette reprise de boîte ? Également, voilà, tes frères et sœurs, tes parents ?
Eh ben écoute, franchement, ça a été hyper bien accueilli. Au début, j'avais un peu peur, tu sais, du cliché de la femme qui a des enfants, qui en a 3, et qui se dit... Ah, trop chouette, je vais reprendre une marque de fringues pour enfants. C'est un peu le cliché. Le cliché. Et en fait, je pense qu'ils ont vu directement que... Bah déjà, ils connaissaient aussi, eux, Frangin Frangine, parce que je leur en parlais, que je disais que c'était une marque super chouette qui faisait des vêtements trop, trop canons. Donc, c'est pas tombé un peu comme un cheveu sur la soupe. Ils avaient déjà entendu parler de la marque. Et après, je pense qu'ils se sont dit, c'est assez rassurant, elle est avec Mylène, qu'ils connaissent bien. On a un profil complémentaire, on a fait une école de commerce, donc globalement, on a un peu les acquis, enfin pas les prérequis, enfin on débarque pas de nulle part, quoi, je veux dire, on n'a pas fait des études de coiffure ou quoi, ok, donc a priori on est capable de gérer ça, et non, je pense qu'ils ont vu ça comme plutôt une belle opportunité à un moment de vie où en effet l'équilibre pro et perso est... devient important et primordial pour garder, entre guillemets, un peu les pieds sur terre et pas être complètement noyé. Et Guillaume, mon mari, lui, il a été hyper enthousiaste. Enfin, il était vraiment ravi de l'aventure et il nous voyait bien avec Mylène là-dedans. Donc, on a été, on a été plutôt très bien accompagnés. Après, faudrait être difficile pour dire que c'est une drôle d'idée. Enfin, c'est plutôt chouette comme projet, je trouve. Donc,
D'accord. Est-ce qu'il est lui-même entrepreneur, Guillaume ?
Pas du tout, il est avocat, donc rien
pas
à voir.
D'accord. Et est-ce que tu parles librement à la maison des coups durs, de ton cheminement ? J'imagine qu'il y en a parfois. Est-ce que tu partages avec ton compagnon ou est-ce que tu préfères couper quand tu rentres chez toi le soir ?
Oui, après on en parle pas non plus tous les jours, mais non, c'est sûr que les grandes étapes, les grands moments, on en parle, aussi bien les joies que les faiblesses. On en parle carrément ouvertement et Mylène aussi en parle beaucoup avec Louis-Charles, son mari. Non, je pense que c'est important d'en parler, d'avoir une oreille attentive et ils sont aussi parfois de très bons conseils sur des sujets sur lesquels on ne les attend pas forcément et sur lesquels on ne les questionne pas. En fait, c'est marrant, ils se font force de proposition parfois sur des sujets sur lesquels on ne les attend pas et c'est souvent hyper pertinent, donc on a de la chance.
Non, c'est ça exactement. Je pense qu'à la maison, parfois, on oublie un peu d'en parler et je trouve que parfois, ils ont vraiment des vrais rôles justement et c'est des regards extérieurs qui peuvent apporter beaucoup de soutien. Aujourd'hui, donc, quel est ton équilibre vie pro, vie perso ? Comment tu organises tes journées ? Avec 4 enfants, ce n'est pas forcément évident. Comment ça se passe ?
Écoute, aujourd'hui, globalement, ça se passe bien. En fait, il y a 2 ans avec Mylène, on a pris la décision de ne plus travailler le mercredi après-midi. Et en vrai, ça change tout. Ça change tout ouais. Parce que en fait cette petite soupape du mercredi après-midi nous permet basiquement de remettre des quarts de la maison, de faire 2-3 lessives, aussi stupide que ça puisse paraître, finalement ça fait du bien de plus être sous l'eau, d'être présent pour les enfants, surtout de profiter un peu d'eux parce que les semaines filent à 10 000 à l'heure et même si notre mercredi après-midi on le passe pas mal à faire des conduites d'activité, finalement on profite quand même un peu d'eux. Et ils voient qu'on est présent, donc c'est super chouette. Et après, en effet, la semaine, vu qu'on prend notre mercredi après-midi, le reste des journées sont très, très intenses au bureau. Après, on n'a pas des gros horaires parce qu'on arrive vers 9h moins le quart, on repart à 18h parce qu'on récupère les enfants après. Donc, on ne fait pas des journées démentielles, mais ça nous arrive pas mal de déjeuner devant notre ordi. Et en fait, on est hyper efficace parce qu'on sait que justement, on ne part pas hyper tard et que le mercredi après-midi, on n'est pas au travail. Donc, c'est une orga qui est comme ça, qui est telle qu'elle est et qui nous va très bien. Je pense qu'on a vraiment trouvé un bon équilibre, Emilène et moi, avec cette orga. Et vraiment, le mercredi après-midi change la vie.
Aujourd'hui, vous travaillez dans un bureau. Vous avez des bureaux à Paris ?
On a des bureaux. On vient de déménager. On est à Boulogne-Billancourt. Okay. On s'est agrandi parce qu'avant, on avait juste une petite pièce où on était à 4 entassées les unes sur les autres. Là, on a un beaucoup plus grand bureau. Donc, c'est super chouette. On est hyper contente. Du coup, on a un vrai bureau où on est contente d'aller tous les jours. Et ça nous va très bien.
Si on parle un petit peu développement personnel, qu'est-ce qu'aujourd'hui ce projet donc Frangin Frangine a changé dans ta vie ?
Alors ce projet Frangin Frangine, qu'est-ce qui a changé dans ma vie ? Je pense que l'air de rien, ça a dû me donner un peu de maturité, pas d'affirmation de moi puisque j'étais pas spécialement timide, mais un peu de confiance en moi, je dirais, parce que je me rends compte que finalement. On est capable, enfin je suis capable, et Mylène aussi à deux, on est capable de faire des choses auxquelles on ne pensait pas avant. Donc oui, ça donne un peu de confiance en soi, un peu de fierté aussi hein, parfois, parce qu'on est contente, à chaque fois on se dit, si c'était 2 mecs qui étaient à la tête de Frangin Frangine, peut-être que la marque serait bien plus loin aujourd'hui, etc. Mais en fait, on se dit, quand on retourne la tête et qu'on regarde ce qu'on a fait en 4 ans, en fait, on n'a pas non plus à rougir et on a fait pas mal de choses. Donc oui, une certaine confiance en soi, je dirais, ça m'a donné une confiance en moi, ouais.
D'accord.
Et comment après, s'il y a un truc qui est important, c'est que, excuse-moi, je te coupe. En fait, on se dit toujours, en étant à son compte, on va avoir plus de temps, etc. En fait, c'est faux. On n'a pas plus de temps, on a limite moins de temps. Mais en revanche, un gros avantage, c'est qu'on a la flexibilité on a le pouvoir d'organiser le temps comme on le souhaite. Donc si on a entre guillemets un rendez-vous de pédiatre pour un de nos enfants, c'est possible, hein. Mais c'est à nous de nous organiser et de savoir comment on veut imbriquer tout ça dans notre emploi du temps. Donc on a une nouvelle, enfin j'ai une nouvelle liberté dans cette organisation, c'est sûr. Après à nous de la gérer correctement.
Comment on sait, comment tu sais toi que tu restes aligné avec ton projet et est-ce que si ça arrive, si, j'imagine que voilà, dans toute aventure entrepreneuriale, parfois on a des moments de doute, on a des moments de désalignement. Si ça arrive, comment tu fais pour te remettre dedans ?
Écoute, je sais, en fait, je le vois, les journées compliquées au travail, je le vois parce qu'elles sont compliquées à la maison le soir. Parce que, pourquoi ? Parce que j'arrive de mauvaise humeur, j'ai aucune patience, j'ai envie de coucher les enfants dès que je rentre. Et donc, je sais qu'il y a un truc qui ne va pas. Et en fait, j'essaye au maximum, bon, ce n'est pas toujours possible, hein, mais de me dire si je rentre de bonne humeur, en fait, la soirée va bien se passer, on va être de bonne humeur avec les enfants, ça va être chouette, on va se marrer et ça va bien se passer. Donc, évidemment, en tant qu'entrepreneur, notre vie pro est intimement liée à la vie perso. Mais en fait, les enfants, ils n'ont rien demandé à personne. Donc, si on a eu des soucis au travail, en fait, c'est à nous d'essayer de les mettre de côté le moment où on est le petit tunnel du soir, 18-20 heures, où on les voit. Et voilà. Et après, globalement, oui, il y a des périodes un peu compliquées parce que, évidemment, en tant que petite entreprise, le moral est très lié aux chiffres qu'on fait. Donc, quand ça va bien, on est très euphorique. Et voilà, quand c'est un peu plus compliqué, bon bah, le moral est un peu en baisse. Après, l'avantage, c'est qu'on est deux avec Mylène. Et c'est, en général, on arrive à se remonter le moral l'une l'autre. Si ça va pas, c'est très rare qu'on soit toutes les deux down et que on soit dépitées toutes les deux en même temps. Ça arrive, mais ça dure pas longtemps. Et globalement, le fait d'être un duo fait qu'on arrivera toujours à se challenger, se motiver, se remonter le moral si besoin.
Super. J'ai juste une petite dernière question parce qu'on n'en a pas parlé avant, avant de parler des projets pour la marque et des questions de fin. On n'a pas parlé de communication. Vous êtes très présent aujourd'hui sur Instagram. Quels sont aujourd'hui vos leviers, comment vous organisez un peu la stratégie de communication justement pour booster les ventes
Quelle est Alors, comme tu dis, nous, Instagram, c'est vraiment le vecteur de communication unique, entre guillemets, parce que vu qu'on est vendu que sur Internet, on n'a pas de boutique, on n'a rien, tout passe par Instagram. Donc, c'est un côté quand même un peu stressant parce que le jour où Instagram a décidé de fermer, globalement, ça va être compliqué pour nous. Donc, nous, en fait, ça, c'est vraiment toute la partie de Mylène avec son équipe, tout ce qui est communication, Instagram, etc. Nous, évidemment, ce qu'on essaie de montrer, nos produits, faire des zooms matières, des focus sur la qualité, des focus sur nous, frangins, frangines, on met un point d'honneur à avoir des matières qui sont transverses entre les collections filles et collections garçons. Donc, ça peut être de montrer des looks assortis. On a des collections femmes aussi depuis quelques saisons, donc ça va être de montrer nos shootings, etc. Mais c'est vrai que c'est difficile de trouver un contenu qualitatif qui peut sortir parfois un peu du produit, parce que globalement, le produit, c'est bien, c'est chouette. Mais la communauté peut s'enlacer. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir de plus en plus d'interactions avec la communauté. Donc, ça peut être à travers des lives où on fait un live où on montre des produits en vrai, un live sur les coulisses de la marque. Ça peut être faire des reels avec des petites vidéos un peu plus ludiques sur des enfants qui portent la collection ou qui font des bêtises ou je sais pas quoi. Enfin, doit être vraiment travaillé en profondeur pour essayer de trouver un contenu qui est à la fois produit mais aussi diversifié. Et c'est vrai que c'est hyper compliqué. C'est un vrai sujet. Ouais.
Quels sont aujourd'hui les projets pour la marque ?
Alors, les projets pour la marque, c'est évidemment de continuer à développer et de faire grandir Frangin Frangine. Ça passe par... on a lancé un podcast, là, il y a un an, de 10 épisodes. C'était une série de 10 épisodes. Ça va être de relancer une série de 10 épisodes de podcast. Donc, c'est « Famille, je vous aime » by Frangin Frangine. L'idée, c'est vraiment de rencontrer des profils différents. On a rencontré, tu vois, par exemple... une famille où il y avait 4 frères qui étaient tous les 4 entrepreneurs. On a rencontré Sabrina, qui est la femme du marin Escoffier. On a rencontré les sœurs Petit. Enfin, tu vois, la famille sous plein d'aspects différents. Et on pense que ça peut être hyper Enfin, c'est hyper intéressant. On a eu plein de remontées comme quoi ça plaisait beaucoup à la communauté Frangin Frangine. Donc, on se dit qu'il faut vraiment qu'on relance une série de podcasts. Et après, là, on a en avant-première, tu vas être au courant, on lance un corner aux Galeries Lafayette. On est hyper contente. On va voir ce que ça donne. On se disait qu'en fait, c'est bien d'être une marque digitale, mais ça peut être aussi d'avoir un premier pied dans une boutique physique. Ça fait une vitrine pour la marque, en fait, de dire s'il y a des personnes qui sont encore un peu réticentes à commander sur Internet sans avoir vu ni touché le produit en vrai, on peut les amener, les diriger vers les galeries. Donc ça fait partie de nos gros projets. Et voilà, et puis continuer à faire ce qu'on fait encore plus. Et un de nos projets dont on parlait tout à l'heure aussi, c'est évidemment d'intégrer dans de plus en plus de tissus biologiques. Enfin voilà, en tant que start-up, on a toujours 1000 projets à la seconde. Et finalement, le plus difficile, c'est d'arriver à canaliser nos envies et de prioriser tout ça.
Super. On va finir par des petites questions que je pose toujours à la fin. L'idée, c'est d'y répondre assez rapidement. Tout d'abord, les questions que l'on te pose le plus, que ce soit dans la vie ou sur tes réseaux sociaux.
Et ben, c'est toujours « Mais comment vous faites avec 4 enfants et avec votre boîte ?» Et du coup, nous, avec Ned, on se marre toujours un peu parce qu'on répond, en fait, pareil que si on avait 4 enfants et qu'on était salariés, finalement. Enfin, ça,
oui.
C'est pas le fait d'avoir une boîte qui change à 100% le fait de travailler. Certes, il y a des petites différences, mais c'est vrai que qu'on soit salarié ou qu'on ait notre boîte, bah, on travaille et voilà. Donc, ça nous fait toujours un peu rire, mais c'est vrai que c'est la question qu'on nous pose tout le temps.
Il y a plus de décisions stratégiques, on va dire, je pense, quand on est entrepreneur. Et c'est peut-être plus de pression.
Certainement, mais après, vu qu'on fait ce qu'on aime, on ne le ressent pas en tant que tel.
C'est ça, d'accord. Peux-tu me décrire une journée type ?
Alors, une journée type, nous, on est très mal organisés. Enfin, non, on est quand même très bien organisés. Mais on se réveille globalement assez à la bourre parce qu'on a 3/4 d'heure entre le moment où on se réveille et le moment où on part à l'école. Okay. Donc voilà, c'est un peu la course, mais bon, ça nous va bien. On prend le petit-déj tous ensemble, tous les 6, parce que vu que mon mari rentre assez tard le soir, c'est vrai qu'il ne voit pas les enfants, donc on se fait un point d'honneur à prendre le petit-déj tous ensemble. Après, bah, chacun va qu'à ses occupations, que ce soit école, boulot, etc. Et le soir, du coup, moi, je rentre vers 18h, 18h30 à la maison. Le fameux tunnel, devoir, bain, dîner. Mais après, en vrai, bon, là, il commence à être relativement grand, donc c'est, enfin, il y a des soirs, c'est chaotique, évidemment, mais ça commence à être cool.
Ok.
et en fait, vu que je suis toute seule, parce que mon mari rentre plus tard, ça, ce truc un peu simple et un peu, si je caricature, militaire, où tout est assez organisé. Et ils savent que quand ils ont fini de dîner, ils vont se laver les dents, enfin, ils débarrassent leurs affaires, ils vont se laver les dents, donc. Finalement, là où c'est un peu plus le bazar, c'est si Guillaume rentre par surprise un peu plus tôt et que du coup, c'est la fiesta, les enfants vont voir leur papa et c'est là où ça devient un peu le bazar.
Ça les organise un peu.
Mais voilà, la journée type assez classique et voilà.
Ça marche. Tes citations préférées ?
Alors moi, il y a une citation que j'adore, c'est « En forgeant qu'on devient forgeron ». En l'occurrence, ça s'applique très bien, je trouve, à notre situation d'entrepreneur. Il y a deux sens dans cette citation. C'est que déjà, faut pas avoir honte de pas savoir faire quelque chose, et finalement, on apprend en faisant. Et c'est finalement en faisant qu'on acquiert la compétence. Et en effet, nous, quand on a commencé, tu vois, Frangin, il y a plein de trucs qu'on savait pas faire. Et évidemment, un truc tout bête qu'on raconte tout le temps avec Mylène, c'est un code barre. Comment on fait un code barre ? Enfin, plein de petits trucs un peu bêtes, voilà, et on se dit, en effet, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et finalement, c'est en pratiquant qu'on apprend. Et puis, de toute façon, faut jamais attendre. On dit toujours, si tu attends que tout soit parfait, tout soit maîtrisé, finalement, tu te lanceras jamais. Donc. Faut laisser un peu de place à la folie et au doute. Et allons-y gaiement. Après, une autre citation que j'adore, c'est « Un sourire ne coûte rien, mais il crée beaucoup ». Je pense et j'espère être une personne assez souriante. Enfin, on me le dit, c'est vrai que je trouve ça hyper important. On transmet beaucoup de choses par un sourire, que ce soit de l'espoir, de la reconnaissance, du soutien, enfin, tout, plein de sentiments peuvent passer par un sourire. Et je trouve ça hyper important d'avoir des gens souriants, une équipe souriante. Je trouve on se sent plus fort. Et après, une qui nous fait beaucoup rire avec Mylène, c'est quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Ça ouais, nous arrive plein de fois quand on hésite entre des tissus, des formes, des machins. En fait, on se dit, ah, on a un doute, bah, il n'y a plus de doute.
Ouais. tes livres préférés?
Alors, mes livres préférés. Moi, je ne suis pas une très grande lectrice. Malheureusement, je n'ai pas beaucoup de temps. Je me suis remise à lire il y a... Cet été, j'ai lu 4 bouquins, donc voilà. Et là, je viens de commencer, il n'y a pas longtemps, Artifice de Claire Berest, qui se trouve être une amie. Je ne sais pas si tu la connais. Elle a écrit Rien n'est noir sur Frida Kahlo. Enfin bref, c'est une... Elle est formidable. Et c'est un bouquin sur un flic qui a été mis à pied. On ne sait pas trop pourquoi. Et ça a l'air tout à fait captivant. Donc, en une soirée, j'ai lu 80 pages. Donc, je pense que d'ici 2 jours, c'est bon, ce sera terminé. Mais j'avoue que je ne suis pas la plus grande lectrice du monde. Mais c'est vrai que les livres de Claire Berest, après, forcément, vu que c'est une amie, je me mets aussi un point d'honneur à lire ces bouquins, mais ils sont tout à fait admirables.
Ok, super, je vais découvrir. Tes routines pour être bien physiquement et mentalement?
Mes routines pour être bien physiquement et mentalement, j'en ai pas forcément. Je ne vais pas être une bonne élève pour ça. Quoi qu'il arrive, je pense, j'aime bien, je vais pas à la salle de sport ou quoi au caisse, mais j'aime bien me faire des petits replays sur mon ordi le soir quand les enfants sont couchés, des séances de cardio. Une fois par semaine, tu vois, ça, pour me défouler un peu. M'aérer. Le week-end, on passe notre vie avec les enfants à aller se balader dans la forêt, à aller faire des balades en vélo, à aller cueillir des légumes et des fruits à la ferme de Galy, dans la banlieue parisienne. Enfin, j'ai beaucoup besoin de m'aérer la tête et l'esprit en étant dehors, en fait, dans la nature.
Ouais.
Et après, j'ai pas beaucoup plus de routine que ça. Après, je pense que les enfants grandissant, je pense qu'en effet, je vais plus prendre de temps pour moi aussi par la force des choses, parce qu'ils sont plus autonomes, plus indépendants. Et si une routine très importante, c'est les dîners entre potes. Voir mes amis, voir mes proches, ça c'est hyper, hyper important pour mon bien-être et pour mon équilibre.
Un échec que tu as vécu et que tu aurais surmonté?
Ouh là là, la question piège. J'en ai pas de précis en pro ou perso. Non, moi, l'échec permanent que j'ai, c'est quand je perds patience avec mes enfants, parce que, alors qu'ils y sont pour rien, c'est juste que moi, je suis pas bien dans ma tête, ou j'ai la tête au bureau, enfin, j'ai un truc qui me trotte dans la tête, et du coup, je suis pas disponible pour eux. Et du coup, je leur hurle dessus, alors que les pauvres, ils y sont pour rien. Il a mis un petit point dehors de son assiette, ça peut mettre hors de moi, alors qu'en vrai, il n'y a rien de dramatique. Donc, c'est plus essayer de travailler ma gestion, ouais, d'être plus patiente avec les enfants, en fait.
Ouais, c'est dur. La personne que tu admires le plus?
La personne que j'admire le plus, moi j'admire énormément ma maman. Ça peut paraître assez bateau comme réponse, mais en fait elle a eu plein de, pas plein de vies différentes, mais elle a été instite puis directrice. En parallèle, elle a fait des études de graphothérapie, elle a été graphologue. Mes parents se sont séparés, du coup elle s'est retrouvée avec les 3 enfants, et je l'ai trouvée formidable à cette époque où elle a été hyper forte, hyper chaleureuse, hyper souriante. Et c'était vraiment un modèle à cette époque où je me dis, purée, si ça m'arrive, j'aimerais être comme elle, parce que elle donne le change, quoi. Elle garde la tête sur les épaules, elle est hyper présente pour nous, hyper enthousiaste, hyper, hyper forte, même si elle a dû avoir des moments très difficiles, elle ne nous les montrait pas. Et j'ai passé... c'était sur le tard, hein. J'étais déjà adolescente, mais... une période qui peut être compliquée. J'ai passé une super adolescence où on s'est trop marré, alors que le contexte n'était pas forcément très gai. Et puis aujourd'hui, elle est formidable avec les petits-enfants. Donc, j'avoue que je l'admire, ma petite mame.
Génial. Et ma dernière question que je pose à tous mes invités, ta définition... Bon, c'est pas la plus facile, hein, je te
préviens. Attention, la dernière question piège.
La définition du risque, selon toi, et les risques nécessaires pour vivre pleinement.
Alors, la définition de l'hubris, ce serait de sortir un peu de sa zone de confort et de se dire, je suis pas sûre à 100%. Bah, comme je te disais tout à l'heure, faut avoir un peu de lâcher prise et un peu d'incertitude et de finalement d'être un peu en position inconfortable, mais de sentir qu'on a envie d'y aller quand même, en fait. De ne pas maîtriser à 100%, de lâcher prise, un mélange de lâcher prise, d'incertitude et d'inconfortabilité, entre guillemets, je ne sais pas si ça se dit.
Ouais, si. Enfin, en tout cas, je comprends le
mais
le
sens. Mais avoir envie d'y aller, c'est le ouais. Principal.
Et selon toi, du coup, le risque nécessaire pour vivre pleinement, c'est y aller.
Ouais, c'est de foncer. Ouais, de se lancer. Bon, évidemment, une tête brûlée, mais de se dire que si on attend que tout soit parfait, que tout soit maîtrisé, que tout soit contrôlé, bon, en fait, on perd l'essence du risque et enfin, je sais pas comment dire, de. Ouais. Le fait que ce sera cool de le faire, en fait. Ouais, c'est ça. Mmh.
Merci beaucoup, Aude.
Merci beaucoup, Laura.
Cet épisode est maintenant terminé. En espérant qu'il vous ait plu, je vous donne rendez-vous maintenant sur le compte Instagram lalea.podcast pour découvrir les coulisses de l'interview.